Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Mad et je suis accompagnée de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Mad.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Je suis très content de faire cette interview avec toi.
Moi aussi, je suis ravie. Être avec le président, c'est quand même un honneur. Et puis j'ai un peu plus de voix que Dédé Schultz, donc c'est super. Nous accueillons aujourd'hui Baptiste Dérez. Bonjour Baptiste.
Salut.
Alors Baptiste, tu travailles à la boutique Le Passe-Temps de Toulouse. Tu es connu en tant que youtubeur pour la chaîne du Passe-Temps. Tu es également auteur de jeux et en particulier co-auteur de Flashback Zombie Kids avec Marc-Antoine Doyon, lauréat de l'As d'Or depuis quelques jours dans la catégorie enfant. Alors, comment se sont passés ces derniers jours ici à Cannes?
Écoute, non, très bien. Je bosse pas mal, donc en fait, j'ai pas le temps de penser à grand chose d'autre en vrai. En vrai, c'est une très belle expérience, c'est une très beau Cannes, il se passe plein de choses, que ça soit professionnel, humain. Très belle expérience.
Alors, pour commencer les interviews ici chez Proxy Jeux, on a une petite habitude, on commence par un fil rouge. Pour toi, Cannes, c'est plutôt les Dents de la Mer ou la Cité de la Peur?
Qu'est-ce que tu entends par dans le...
Tu peux répondre comme tu veux, soit par rapport au film, soit par rapport aux Dents de la Mer, la Cité de la Peur, plutôt la mer, plutôt la cité, plutôt tu vois le film Les Dents de la Mer, plutôt le film La Cité de la Peur. C'est comme tu le sens.
Entre les deux, moi ça m'évoque plus la Cité de la Peur parce que ça se passe c'est là où ça se passe quoi. Et effectivement, c'est ce côté Cannes emblématique qu'on trouve dans le film. Donc moi ça m'évoque plus ça. Ouais.
Et pour toi, la préparation du salon, c'était plutôt Mission Impossible ou La Vie est Belle?
Oh non, La Vie est Belle.
Ouais, ça s'est bien passé, oui, nickel. T'es arrivé serein?
Oui, bien sûr. Serein, complètement. Ça va mieux.
Et pour venir à Cannes, c'était plutôt Dernier Train pour Busan ou y a-t-il un pilote dans l'avion?
Oh non, c'était une bonne ambiance. En fait, on est venu en voiture avec toute l'équipe, donc le voyage se passe hyper vite. Donc plus le côté un peu déluré, délirant de y a-t-il un pilote dans l'avion.
D'accord. Et le logement, c'était plutôt camping ou la folie des grandeurs?
Ah non, il y a un yacht.
Oh, mais oui, c'est vrai ça. C'est que le Passe-Temps a loué un yacht.
Ah, moi, j'ai cru que c'était une blague.
Non, c'est pas une blague. Après, en vrai, c'était moins cher que le moins cher des B&B qu'on ait pu trouver. Quoi. En vrai, c'est pas cher.
Et vous êtes à combien dans ce yacht?
On est 5, on peut être à 6, mais tu sens que tout a été optimisé. Quoi. C'est un petit bateau. En vrai, c'est un gros bateau et un tout petit yacht.
Parce qu'il y a eu des blagues aussi sur le mal de mer potentiel.
Quand tu regardes dehors et que ça bouge, tu te dis ouh, ça bouge. Mais quand t'es dedans et que tu vois pas dehors, en vrai, y a pas de problème. Quoi. Ça va, c'est rigolo.
Pour toi, le jeu à deux, c'est plutôt Rocky ou Dirty Dancing?
Non, Dirty Dancing. Je suis pas trop affrontement, je suis pas le côté vouloir absolument détruire l'autre.
Et pour toi, la rencontre avec les éditeurs, c'est plutôt Mon Voisin le Tueur ou Les Copains d'Abord?
Non, c'est Les Copains d'Abord. La plupart, on les connaît, on a déjà des relations avec eux. J'en découvre d'autres ou des fois, je mets un visage sur des noms que je ne connais que par mail. Donc, c'est très cool. Et puis, ils sont tous très accessibles, c'est hyper chouette. Enfin, c'est vraiment une grande famille, en vrai. C'est très agréable de passer du temps avec eux.
Et pour terminer, le off. C'est plutôt Une Nuit en Enfer ou La Fièvre du Samedi Soir?
Je suis pas fan du off. C'est trop de bruit. C'est trop bruyant, il y a trop de monde. Tomber sur une table avec un jeu intéressant, c'est un peu la loterie, quoi. Mais en vrai, j'ai fait qu'une soirée au off mercredi soir en arrivant. Et c'était une bonne soirée. On a joué à des trucs chouettes. Et voilà.
La Nuit en Enfer ou La Fièvre du Samedi Soir? La Fièvre du mercredi soir.
Non, en vrai, c'est plus La Nuit en Enfer parce que j'ai pas vraiment envie d'y aller parce qu'il y a trop de monde, c'est trop bruyant. D'accord. Je suis claqué, et voilà. Mais il y a quand même des belles expériences et surtout, c'est là où il y a des jeux qui sont signés des fois, quoi. Donc, ça reste chouette pour ceux qui le vivent sûrement et qui.
Ok.
Et qui vont, voilà.
Mais toi, t'es jamais passé par le off pour faire.
Non. C'est ma deuxième fois à Cannes et à chaque fois en pro, je fais que ça.
Ok. Très bien. Bah écoute, on va attaquer l'interview à proprement parler. Je te propose qu'on parle d'abord de ta casquette de, d'auteur de jeu.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler, donc tu es auteur de Flashback Zombie Kills, enfin co-auteur avec Marc-Antoine Doyon. Donc on l'a déjà dit, vainqueur de l'As d'Or Enfant. Donc déjà, félicitations.
Oui, merci. Bravo.
Merci.
Déjà, bah on peut peut-être recueillir ton impression sur cette victoire.
Ben, comme je crois que je vais pas changer de discours de ce que j'ai dit à la cérémonie, c'est vraiment et comme disait Jules hier, on l'a interviewé dans un autre format qu'on fait, c'est avant tout le jeu qui a le prix et pas l'auteur ou pas voilà, c'est le prix il est pour le jeu et pour tout ce qu'il y a autour, donc ça soit l'auteur, les co-auteurs, ceux qui ont fait les dessins, l'éditeur, ceux qui ont joué, le jury qui a participé à sa nomination, etc. Donc moi je suis content pour le jeu vraiment parce que ça va lui permettre, j'espère, d'avoir une vie meilleure, en tout cas de pouvoir aller dans plus de foyers et que plus de gens découvrent cette expérience que je trouve intéressante, enrichissante, où il se passe des choses. Il y a pas mal de retours de gens qui me disent qu'ils ont passé un excellent moment avec leurs enfants, etc. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est pas, j'en tire pas vraiment de prestige. En fait, je me surprends à avoir une sorte d'humilité presque totale.
Ouais.
Et c'est presque surprenant. En fait, toi, je devrais être plus content que ça normalement, non? Enfin, je devrais exalter, je devrais sauter partout. Bah non. Mais ça n'empêche pas que je suis super content. Et je suis super content plus pour le jeu que pour moi, en vrai.
D'accord. Voilà. Okay. Ouais. Tu penses pas que c'est la réaction à chaud et que peut-être le temps de réaliser?
Non, parce que je crois que je fonctionne comme ça pour plein de choses. En fait, et c'est hyper cool. Et en fait, moi, je suis beaucoup plus touché par quelqu'un qui va me raconter son expérience de jeu, qui m'a dit j'ai passé un bon moment en famille ou on regarde plus la télé le soir et maintenant on joue à des jeux de société, on a joué à ça et c'était génial, que ah bravo t'es formidable. Bah non, je suis pas formidable, quoi. J'ai eu une idée et l'idée elle plaît et c'est ça qui est formidable, c'est la réaction des gens, quoi. Mais voilà.
Et comment elle est venue cette idée?
Alors comment elle est venue, en fait je pense que j'ai toujours voulu raconter des choses, faire vivre des histoires aux gens, enfin faire vivre des choses aux gens. Pour moi, le jeu, c'est aussi un vecteur d'émotion, c'est un vecteur de souvenir avant tout. Que le jeu soit mauvais ou bon, même un jeu très mauvais peut être une super expérience parce qu'on n'a pas arrêté de râler dessus et le descendre, et du coup, ça crée un moment d'émulsion et socialement, c'est hyper intéressant. J'ai toujours écrit des histoires, que ça soit en jeu de rôle, que ça soit en grandeur nature, que ça soit plein de formats. Et voilà, je voulais raconter un peu cette histoire dans cette enquête, de pouvoir faire une enquête sans texte. J'aime beaucoup l'interprétation qu'on peut avoir, l'idée, l'image qu'on peut se faire d'une image sans avoir de texte qui nous l'impose. Et du coup, de cette image figée, de pouvoir naviguer dans cette image figée et de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre grâce aux différents points de vue qu'on va explorer. Donc j'ai été très inspiré par deux œuvres qui sont majeures dans ma vie, qui est la bande dessinée 3 secondes.
Ouais, d'accord.
De Marc-Antoine Mathieu ou Paul-Antoine, je sais plus si c'est...
De Monsieur Mathieu.
De Monsieur Mathieu. C'est quelque chose Antoine Mathieu. Mais... Et Return of the Obra Dinn, qui est un jeu vidéo un peu dans cet esprit-là, où il y a une scène figée, on va se balader dedans pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je crois que c'est principalement ça qui m'a inspiré. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez raconter des histoires qui marquent les gens et qui puissent faire vivre quelque chose à des gens.
Ouais, donc c'est parti vraiment de ces deux œuvres-là.
Ouais.
Et au niveau du jeu de société, il y a des œuvres qui t'ont, tu penses, qui t'ont inspiré, ou c'est peut-être un Maelstrom?
En vrai, je suis très fan et friand de jeux d'enquête, donc je pense que tous les jeux d'enquête m'ont inspiré, en vrai, quoi. Enfin, parce que j'aurais jamais fait un jeu d'enquête de ma vie, peut-être que j'aurais jamais fait ça. Donc,
T'as un jeu d'enquête préféré?
Détective,
ouais.
Alors, préféré, en fait, j'aime pas dire des trucs préférés parce que potentiellement ça veut dire que les autres sont moins bien.
Non, mais ça peut être une œuvre préférée pour toi, tu vois, c'est hyper subjectif,
quoi. Oui, enfin, je suis d'accord, mais en fait, je pense que le côté préféré, en fait, ça dépend d'un moment. Et le moment peut changer et je peux avoir un autre jeu, adorer une autre expérience à un moment, ça n'enlève rien à l'expérience que j'ai déjà eue. Donc j'ai des expériences marquantes, est-ce que j'ai un jeu préféré, je sais pas, mais dans les expériences marquantes, dans les jeux d'enquête, détective, clairement, et loin devant. Les Sherlock Holmes, bien sûr, mais ça peut être aussi des petits jeux plus comme les Crime Zoom, les choses comme ça, qui sont assez excellents.
Ils sont peut-être plus proches finalement de ce que t'as créé, Crime Zoom, avec le côté très visuel sur les images.
Peut-être que indirectement ça m'a inspiré, je sais pas.
Mais, et Bubble Stories, non?
Ben en fait, j'avais déjà le jeu quand Bubble Stories est sorti. Et je me suis dit, ah tiens, ça reprend un petit peu l'idée, mais ça quand même. On est quand même très très loin, donc ça va. Enfin, c'est quand même. Je me suis dit, ah ben mince, quand même, si c'est vraiment la même chose. En fait, quand on m'a pitché, il y a Bubble Story qui sort, je fais.
Là, à ce moment-là, dans ta tête, ça fait comme toi, t'as ton idée dans la tête, tu fais, ah merde, c'est pareil.
En c'était
fait,
déjà signé, etc. Et du coup, avec les Scorpions, on a regardé, on a fait. Oui, bon, ça va, c'est quand même sacrément long, sacrément loin de ce qu'on fait, de ce qu'on développe. Quoi. Donc,
on rappelle que Bubble Stories, c'est un jeu à partir de 3 ans, si je dis pas de bêtises, ou 4.
Ouais,
c'est 4
je dirais 4.
C'est 4. Et. Quand tu flashback Zombie Kids, c'est 7 ans, et effectivement, je pense que ça respecte effectivement ces âges-là. Hein.
Mais de ce que tu dis, effectivement, on trouve un fil conducteur, je trouve un fil rouge dans tes créations. L'image a toujours une part très importante parce que il y a les puzzles que tu as fait avec Fanélia,
avec
il me semble.
Avec Fanélia, et encore une fois, il n'y a pas de texte. c'est des énigmes sans texte.
Tu ne sais pas lire, ça doit être ça.
Non, en fait, j'aime qu'on puisse raconter une histoire sans texte. En fait, j'aime qu'on passe par un autre moyen de communication que celui qu'on connaît, qui soit la parole, soit le texte. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de communiquer autrement. Et je pense que l'image et le son en font partie. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le son aussi. Voilà.
Et puis l'interprétation, peut-être qu'on peut avoir plus facilement à partir d'une image. C'est à partir d'un texte plus explicite, peut-être.
Ouais, l'interprétation et puis le côté coopératif aussi de l'interprétation multiple de plusieurs personnes qui ensemble vont aller vers un but commun. Et ça, c'est fabuleux, en fait. De voir ce cheminement, de voir que quelqu'un, comme dans un escape game, va initier une idée en disant, ah, tiens, c'est peut-être ça. Et quelqu'un qui va rebondir dessus en faisant, ah, mais t'as raison. Et en fait, on va creuser là-dedans et ensemble, on va être bien meilleur que une réflexion seule.
J'ai pas regardé sur la boîte de flashback Zombie Kids, c'est noté pour combien de joueurs? C'est de 1 à quelque chose?
Je suis même pas sûr.
c'est pas et toi, tu déconseillerais?
Non, 1, non.
Tu déconseillerais
alors,
de jouer
tout seul? En fait, vraiment, un enfant tout seul, je pense que il va avoir du mal. Déjà, un enfant tout seul, ça va pas vraiment. Enfin, pourquoi jouer à un jeu de société quand t'es un enfant tout seul? Et je le conseille vraiment de jouer avec des parents, même si, en vrai, les enfants sont en général même meilleurs que les parents pour trouver les choses. Mais le parent va certainement un peu cadrer l'enfant pour pas qu'il aille trop vite, pour pas qu'il voilà, et surtout pour lire les quelques textes qu'il y a, parce que des fois à 7 ans c'est un peu juste la lecture en termes de compréhension. Ouais,
effectivement.
Donc voilà, moi je joue avec un adulte quand même.
Et
Pardon, du coup j'ai vérifié pendant le temps, il est donné de 1 à 4 joueurs.
Voilà, c'est ça, 1 à 4, mais clairement 1 c'est un peu dommage quoi. Enfin, dans tous les cas, je trouve que l'expérience et l'émulsion qu'il y a à plusieurs, à se dire, à comprendre ensemble un problème, en fait, à résoudre ensemble quelque chose, est 100 fois plus important et 100 fois plus fort que si tu le résous tout seul. Pour toute expérience, que ça soit dans la vie, dans les jeux, partout. Je trouve qu'on est tellement meilleur à deux ou à plus, quoi. Tellement meilleur en groupe. On est des humains, on est des animaux sociaux et on doit faire les choses avec les gens, quoi.
Et l'idée de mettre le jeu dans l'univers de Zombie Kids, c'est venu comment?
Alors,
de qui?
Alors, c'est venu des Scorpions. En fait, moi, quand j'ai proposé le jeu aux Scorpions Masqués, qui m'ont dit, c'est génial ton truc, mais est-ce que t'as pas peur que dans 2 ans, le temps à peu près de développement, quoi, le marché de l'enquête adulte soit complètement saturé? Je lui dis, bah, si, il est déjà, donc, en vrai, aussi, carrément. il est saturé, voilà. Et il dit, bah, du coup, est-ce que ça te dit d'aller sur un créneau qui est beaucoup moins exploité, qui est en gros le jeu d'enquête pour enfants,
Donc là, t'es en train de nous dire qu'au début, c'était un jeu adulte que t'avais imaginé.
Tout à fait. Mon proto, c'est un scénario adulte, complètement.
D'accord. Mécaniquement, c'est pareil.
C'est la même chose. C'est juste en fait, en gros, la mécanique, c'est que tu pouvais voir la dernière image enregistrée par le cerveau d'un cadavre. Et c'est
pas
et du coup au-delà de ça.
Ah, là, on est avec des zombies quand même. Tu sais que les méchants sont morts. Hein.
Mais du coup, tu pouvais quand même, dans tous les cas, zigzaguer entre les points de vue et essayer de comprendre ce qui s'était passé avec ce mort. Quoi. Enfin, en gros, c'était une enquête. Il y a un mort. On essaie de comprendre ce qui se passe. Et il y a plein de choses à voir partout. Voilà. Et du coup, l'univers de Zombie Kid s'est un peu imposé parce que c'est une licence phare qu'il possède et qui marche très bien. Et en fait, d'associer un nouveau jeu à une image que les gens connaissent déjà, bah, c'est une sacrée bonne idée, en fait. Ça marche très bien. Et ça a très bien marché. Ça a très bien été accueilli. Il y a plein de gens qui ont dit, bah, on a fait Zombie Kid, du coup, on a lancé Flashback, alors que le jeu n'a rien à voir. Mais,
Et la rencontre avec Marc-Antoine Doyon, parce que pour l'instant tu nous en as pas encore parlé.
Ouais.
À quel moment il arrive dans cette histoire?
La rencontre physique ou la rencontre
la rencontre auteur, sa contribution du
alors,
coup.
Alors du
si
coup,
bah, donc, l'idée originale est de toi.
Il me semble qu'à la cérémonie, vous avez dit que vous voyiez pour la première fois sur la scène du festival. Ouais. Et donc c'était pas une blague.
Non, c'était pas une blague.
Mais sur la scène vraiment?
Ah oui,
dans les couloirs.
Non, je pense qu'il préparait l'émission du soir et je l'ai pas vu la journée. Non, je l'ai pas vu la journée.
Incroyable.
La première fois que je le vois en vrai. C'est à la cérémonie et le premier truc qu'on fait, c'est on se prend dans les bras. Parce que soi-disant, c'est quelqu'un que soi-disant je ne connais pas, mais en fait je le connais. Enfin en fait, je le connais pas physiquement, personnellement, humainement. Mais si, je le connais humainement,
oui,
et voilà.
Ça,
mais je le connais à travers un écran et en vrai, on partage tellement de choses et qu'en vrai on se connaît. Enfin, j'avais vraiment l'impression de le connaître. Donc voilà. Et donc, quand il est arrivé sur le projet, c'est Christian des Scorpions Masqués qui m'a proposé, en fait, est-ce que je veux travailler seul ou est-ce que je travaillais à plusieurs. Comme je disais avant, je pense qu'on est meilleur à plusieurs et ça rate pas. Enfin, c'est évident que on se sert l'un l'autre, on évolue ensemble, ça avance ensemble, on rebondit sur les idées des autres, on les augmente. Et oui, bien sûr, c'est une évidence qu'il faut travailler à plusieurs sur des projets comme ça, qui sont des projets narratifs, avec un équilibrage précis. Et donc voilà, il rentre dans le projet aussi parce que il est vidéaste aussi pour Etu Game. Et il a un diplôme de, enfin je sais pas s'il a un diplôme, mais en tout cas il a travaillé pour le cinéma, donc en gros les points de vue et les cadrages, c'était
quelqu'un de très approprié quoi pour le sujet.
Totalement.
Parce que techniquement, comment ça se passe pour pouvoir voir les points de vue comme ça à partir d'un personnage? J'imagine que vous avez des outils un peu techniques.
Alors comment on a créé un scénario? Alors du coup on a créé la trame à l'écrit, on va dire comme ça. Puis on a fait un storyboard petit bâton. un petit peu sur les différentes idées, points de vue, etc., avec un point de vue de haut de toute la scène.
Ce que t'appelles un storyboard petit bâton, c'est que tu dessines des bonhommes bâtons, c'est
ouais,
ça?
Ouais, voilà, c'est ça.
Des bons hommes, Cyrus.
Des bons hommes. Ok. J'essaierai de me corriger.
Et, à partir de là, en fait, on a fait une première version 3D moche, sur, je sais plus quel logiciel ils ont utilisé. Mais c'était vraiment moche quoi, c'était des volumes quoi.
Parce qu'ils ont quelqu'un chez eux qui bosse de la 3D, il me semble.
Ils se sont mis à la 3D. Manuel et Marc-Antoine mis à apprendre la 3D, mais c'est la 3D basique quoi.
Manuel n'en faisait pas, mais en revanche il faisait appel à quelqu'un qui faisait de la 3D, je crois.
Alors pour Zombie Kids en fait il y avait l'illustrateur de Zombie Kids, c'est des personnages en 3D, j'ai oublié son nom, mais c'est la 3D, mais c'était c'est de la 3D type animation quoi. Là l'idée c'était de faire des volumes, de représenter toute la scène en trois dimensions. Et même les personnages qui étaient là, c'était des boules ou des cubes au début, puis après on place des caméras là au niveau des boules et des cubes justement, et on voit ce que ça donne. On imprime ça, on fait un storyboard un peu plus propre par dessus pour voir faire les premiers tests si ça marche, et à partir de là on envoie ça aux illustratrices qui ont fait que les décors. Lord de Châteaubourg et Jenny ont fait des décors, et elles sont issues du jeu vidéo, et en fait elles ont fait les décors en 3D. Et ensuite elles ont pris la scène qu'il fallait et elles ont peint par dessus en 2D.
Tu parles de Lord de Châteaubourg, effectivement, et Jennifer Matty
c'est ça,
des illustratrices du jeu. Du coup, Michel Verdu, qui est le troisième.
Alors lui, il a fait les personnages.
D'accord.
Donc sur les décors, on a intégré les personnages ensuite, qui eux sont faits en 2D qui sont faits de façon plus, on va dire traditionnelle, quoi, mais qui sont faits en 2D par dessus.
Ah d'accord. Donc en fait, vous avez vraiment tout modélisé en 3D pour avoir des points de vue qui soient le plus réaliste possible.
Bah, enfin, oui, parce qu'en fait, on a essayé 100 et en fait, ça marche. C'est hyper dur.
Ah ouais, ça, ouais.
C'est hyper dur de se dire qu'est-ce que vous imaginez. T'es obligé
de faire un peu approximatif, ouais. Du coup. Ouais.
Il y aurait des faux raccords de partout. Enfin, ça aurait été terrible. Quoi. Enfin, vraiment, c'est très compliqué en fait d'imaginer un point de vue dans un sens.
Et du coup, cette collaboration à distance avec Marc-Antoine Doyon, ça c'est.
Ouais, c'est
super bien passé, pas de problème avec ça.
Non, pas du tout. En fait, eux, ils travaillaient entre 10 et 11 heures et moi, je travaillais entre 18 heures et 19 heures, quoi.
Ah oui, il y a le décalage horaire, bien sûr.
Et, oui, il vient du Québec, du coup, voilà. Au final, ça se fait. Enfin, c'est pas 12 heures de décalage, c'est que 6 heures. Et en vrai, ça se fait. Et puis, en gros, on avait une réunion d'une heure par semaine, à peu près.
Okay.
Pendant 8 mois, à peu près, un truc comme ça. Parce qu'en général, on bossait de notre côté, et puis on faisait les retakes ensemble, une fois par semaine. Et y compris avec les illustratrices et illustrateurs ensuite, c'était ça, on validait les dessins, on corrigeait à chaque fois.
Et avec ton travail au passe-temps, c'était compatible? T'as eu des aménagements d'horaire?
Non, parce qu'en vrai, ça va, c'est pas... Ouais. Travailler sur ton temps libre, mais je pense que j'ai eu la chance de pas avoir eu... Enfin, j'ai pas compté les heures, ça se compte, je sais pas, une dizaine d'heures c'est sûr, mais c'est pas des années de développement. Quoi.
Mmh. Ouais, c'est allé finalement assez vite.
Ça a été très vite, ouais. Pour le monde du jeu, ça a été étonnamment vite.
Ouais.
Il y a eu un an et demi entre la signature et l'apparition en boutique, ce qui est très peu.
Ouais, effectivement, c'est assez faible. Hein. Ouais. Plutôt dans les petits les projets très courts. Hein.
En gros, il y a eu un an de production.
Ouais. Et les petits twists et tout ça qui arrivent, ça arrive en cours de projet ou il y avait déjà ces idées-là dès le départ?
Pour les bidules. Je sais plus, je crois que je les avais dès le début.
T'avais déjà des...
Non, ouais. Je crois qu'on l'a mis en place très rapidement, mais vraiment ouais, quasiment d'accord. De suite. Dans les premiers brainstorming, on dit on va faire ça, alors lesquels? Non, mais on va rajouter des bidules pour chaque scénario. En revanche, la partie de la fin, en fait, qui permet de rejouer tout le scénario différemment, en fait, on l'a développé un mois avant la fin, quoi, quasiment.
Ah
quoi,
ouais.
Un mois avant de l'envoyer. J'étais serré d'ailleurs, mais en fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait trois scénarios de 20-30 minutes et que si on vendait ça comme argument, ça allait potentiellement freiner les gens, à raison sûrement, à tort pour d'autres. Hein, voilà. Mais qu'en gros, que t'es qu'une heure et demie d'expérience de partie, c'était pas suffisant, marketingement parlant.
Ouais.
Donc, Manuel des Scorpions me dit, il faudrait faire quelque chose qui offre de la rejouabilité au jeu, sans rajouter de matériel, parce qu'on a plus de budget. Quasi pas.
Allez, et bon courage, il a dit.
Et du coup, c'est là où je me suis dit, c'est moi qui l'ai entièrement créé.
Ouais.
De faire une sorte d'escape game avec tout ce qu'on a débloqué, les différents personnages et toutes les histoires. On va pouvoir revenir dans tous les souvenirs pour essayer de résoudre les mini-enquêtes qui sont là à la fin. Et ça double le temps de partie à peu près.
Ah, ok. Et on peut peut-être parler de tes autres projets dans le milieu jeux de société, et assimilés, parce que du coup, donc t'as travaillé sur des puzzles.
Ouais, tout à fait. C'est des puzzles, c'est des Arcana puzzles qui sont édités par Gigamic et en collaboration avec Fanelia, qui est l'autrice et dessinatrice de La Clé, avec Tarn, son mari ici. Et c'est des puzzles. C'est littéralement des puzzles qui sont inspirés d'un conte. Donc j'ai Alice au Pays des Merveilles et Le Petit Chaperon Rouge. Et une fois qu'on a fait le puzzle, y a des énigmes. Parce que ça reste ma patte quand même.
Parce que tu n'es pas illustrateur. Ce n'est pas toi qui as fait l'illustration du puzzle.
Clairement pas. Moi j'ai fait le chara design. Mais ça ressemble à des petits bâtons. Et Elias a pris ces petits bâtons et les a transformés en trucs beaucoup plus jolis.
Ok.
Mais voilà.
Donc ce sont des énigmes qui se cachent dans les puzzles.
C'est ça. Et encore une fois, il y a pas de texte. Quoi, c'est vraiment une fois que le puzzle est fait, si en vrai il y a un peu de texte. Quoi, il y a un petit livret qui t'indique où chercher, comment faire, etc. Mais sur le puzzle, il y a pas de texte. C'est à toi de te débrouiller avec ce que tu vois sur le puzzle, potentiellement sur la boîte, sur le livret, sur plein de choses.
D'accord.
Pour essayer de résoudre l'énigme et trouver l'illustration bonus qui est cachée sur le site de Gigamic.
Et t'as d'autres projets dans le monde du jeu de société?
Alors,
assimilé, du coup.
Ouais, la gamme Arcana Puzzle continue. En fait, a priori, on a d'autres projets. Je pense que c'est pas secret, je peux dire que les prochains ronds sur la petite sirène, qui sont a priori un diptyque, donc deux puzzles qui peuvent se mettre en un et faire un grand tableau, quoi.
Et voilà. Du coup, il y a un truc à avoir, les deux puzzles, il y a des énigmes en plus ou...
C'est en cours de dev. C'est vraiment en cours de développement. L'idée, c'est que oui, il y a une énigme bonus si on a les deux, bien sûr. Mais voilà, avec des mécaniques différentes pour chaque. Ça, je pense que je vais pas le dire. Mais voilà, pour chaque puzzle aura une mécanique de résolution d'énigmes différente.
Ok.
Voilà. Et après, bah, j'ai des protos, des choses comme ça qui traînent aussi. Comme,
De jeux de société, vraiment.
Ouais.
Toujours à base d'enquête, de déductions.
Après, d'expérience ludique, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment, voilà, c'est d'aller chercher aussi le drame aussi, d'aller chercher cette expérience, cette émotion que peut te faire vivre un jeu. Et je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était quelque chose qui était assez frileux. Dans le monde du jeu, le côté est-ce qu'on peut parler de drame, est-ce qu'on peut parler de la mort, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est un jeu si on parle de ça, quoi. Bon, c'est pas drôle, mais et là Alice is Missing est arrivé et a mis une claque à tout le monde en disant bah si, en vrai ça peut et ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est parce que ceux qui veulent chercher ce genre de choses, ben au moins maintenant ils ont quelque chose, quoi. Ils pourront le trouver et vivre quelque chose de sacrément fort, quoi. Moi j'ai vécu des trucs ouf dans Alice is Missing, c'est génialissime. Enfin, moi c'est totalement ma came, c'est totalement pour moi et je comprends totalement les gens qui passent à côté en me disant bah non, je comprends pas, il se passe rien, ça m'intéresse pas. Et c'est OK. Enfin c'est OK, c'est complètement OK, quoi. Mais il en faut pour tout le monde. Et voilà, moi je travaille sur ce genre de choses là, quoi. Moi j'ai envie de faire vivre des émotions aux gens.
Tu as envie d'aller creuser ce sillon, quoi.
Ouais.
OK, d'accord. Ouais. Et j'ai cru comprendre que tu devais intervenir aussi avec Fanelia créer la clé sur un numéro 2 ou
sur... Alors c'est pas la clé en fait, c'est un projet à moi personnellement que je fais avec elle.
D'accord.
C'est Shaman, qui est en fait un livre enquête énigme où il n'y a que des illustrations. Tiens, c'est bien. Il n'y a pas de texte.
Tu te mets à dire l'illustration.
Y aurait-il une patte Baptiste Dérèse?
Il n'y a pas, ouais, il n'y a pas de texte et tout, et c'est des illustrations plein de pages, plein de doubles pages. Voilà, donc une cinquantaine d'illustrations plein de doubles pages, avec des chapitres quand même, et qui racontent en fait l'histoire d'une, enfin, on relate un peu l'histoire d'une tribu nomade inspirée Mongolie, on va dire comme ça. C'est inspiré, c'est pas du tout réaliste. Et on suit l'histoire d'une jeune chamane qui a complètement perdu la mémoire, qui est totalement amnésique. Et tout le but en fait du livre, en fait, ça va être de repérer, de retrouver le nom des 25 personnages qui sont dans le livre et leur totem animal associé.
D'accord.
C'est que des énigmes, que ça soit visuel, que ça soit sonore. Parce que chaque page est illustrée par une bande son qui va illustrer, c'est le terme juste, la page, c'est-à-dire que il n'y a pas une musique d'ambiance et des choses comme ça. S'il y a une rivière, on entend une rivière. S'il y a un oiseau, on entend les oiseaux. S'il y a des gens qui parlent, on entend des gens qui parlent. C'est vraiment l'ambiance sonore de la page telle qu'elle doit être, telle qu'on pourrait l'entendre si on était dans le livre, en fait, tout simplement. Et ça peut être juste de l'ambiance. En fait, l'idée, c'est de proposer une bande son collée, que toutes les bandes son soient collées les unes à côté des autres, avec un petit bruit de guimbarde pour dire tourne la page.
D'accord.
Hein. Et que tu peux lire l'histoire. Enfin, lire. Il n'y a pas de texte.
Tu l'entends, quoi.
Tu peux suivre l'histoire en étant immergé par l'ambiance sonore qui sera travaillée en stéréo, etc. Donc, écouter avec un casque et juste vivre l'expérience comme ça, sans chercher à quoi que ce soit d'autre, quoi. Et après, tu peux repasser, page par page pour essayer de voir s'il n'y a pas une énigme cachée dans le son qui est associée à la page, quoi.
Et ça donne un temps limite pour résoudre l'énigme si tu suis page par page?
Non, c'est pas faisable en fait en suivant par page, non, parce que tu peux le réécouter autant de fois que tu veux, c'est pas...
Ce sera sur, tu peux l'écouter sur ton téléphone, ce sera une application?
Ouais, ça sera pas une appli, ça sera, je pense, hébergé, il y aura, ça sera
un MP3, en gros, quoi, ouais. Ok, d'accord.
Ça sera chez Gigamic aussi, donc je pense que ça sera sur leur serveur, ça j'avoue que je sais pas encore. Mais,
Et du coup, c'est une sorte de vidéo en mode low-tech, quoi. C'est pas, non? Tu vois,
c'est pas une vidéo. Il y a vraiment, c'est quelque chose de
matériel et de...
Ouais. Ah, je sais pas. Moi, je vois vraiment comme suivre une tranche de vie d'une personne qu'on ne connaît pas et qu'on essaye de se plonger dans son univers. Et, avec les joies et les drames qui associent sa vie. et d'essayer de reconstruire un petit peu sa vie et sa mémoire avec toutes les énigmes qui sont proposées, quoi.
Ah, parce que moi je sors une espèce de patte du coup avec tout ce que tu nous racontes, tu vois. Effectivement, tu me parles de l'image, mais il y a quelque chose, il y a aussi quelque chose qui bouge en fait quelque part dans cette image, dans tout ce que tu nous racontes.
Oui, clairement. Bah, en fait, c'est ça.
Il y a ces points de vue qui bougent. Pour le puzzle, peut-être pas. Enfin, je les ai pas fait, je sais pas si on peut imaginer quelque chose qui émerge, mais là, tu vois, ce livre où t'as des images, tu vas feuilleter, il y a du son, il y a une espèce de dimension autre que simplement l'image qui se dégage.
Ouais, je suis d'accord.
Je dirais qu'il y a l'image et une dimension au-dessus de cette image.
Ouais.
Qui crée une forme de, ouais, je sais pas, j'appelle ça vidéolothèque, c'est peut-être pas, enfin, je dis ça à chaud.
J'imagine, en fait, oui, il y a quand même toute cette notion de mouvement dans une image qui ne bouge pas. Par le son notamment, par le rendre vivant, un truc qui ne bouge pas, quoi, voilà.
Ouais, rendre vivant, c'est peut-être mieux dit,
ouais. Ouais, c'est rendre vivant et immersif, quoi, le plus possible, pour immerger le joueur dans une expérience que j'espère être envoûtante, quoi, en véhiculant forcément des valeurs personnelles, mais qui sont pas intrusives ou moralisatrices, quoi, du tout, quoi. C'est chacun y verra ce qu'il voudra, en fait. C'est l'écriture de ce livre, il est fait pour ça aussi, quoi. C'est chacun verra ce qu'il voudra voir et sera touché ou pas par certaines choses. Voilà.
Intéressant. Hyper intéressant.
Ouais, c'est vraiment un projet de cœur, celui-là. Enfin, tous en vrai, mais celui-là, peut-être aussi parce qu'il date et qu'il traîne un peu, mais on veut qu'il soit bien et on s'aperçoit qu'on a plein de problématiques qui se mettent en travers et qu'il faut surpasser pour arriver à proposer quelque chose de parfait, ou en tout cas de plus proche possible de l'expérience que je souhaite.
De ce que tu veux créer, ouais. Et du coup, la version adulte de Flashback Zombie Kids, tu gardes ça en tête quand même, ou
oui,
pas?
Oui, clairement, ouais. clairement. J'en discute au jour où on parle, là, demain matin. Bon, a priori,
avec Scorpion masqué, ouais,
Scorpion masqué, bien sûr. C'est déjà plus ou moins en cours d'écriture de mon côté. Ouais. Je pense que je veux pas prendre le risque d'en parler parce que je suis pas du tout sûr que je puisse quoi que ce soit faire quoi que ce soit là-dessus. Mais c'était la question qu'on se posait. Genre, le 1, il y a le 2 qui sort, qui est Flashback Lucy, qui est plus une sorte de, dans l'ambiance chair de poule pour 8-9 ans, on va dire, à partir de 8-9 ans, c'est un petit cran au-dessus.
Il y a une suite, là, Flashback Zombie Kids, mais c'est pas une suite, c'est un autre scénario. C'est un spin-off, quoi, c'est même pas le même univers, du tout, pas le même dessin.
Mais c'est la même mécanique.
Oui, complètement. Ça restera la même mécanique, et même si on ferait, après on fera une version adulte, plus tard.
Et donc ça, par le flashback, comment tu as dit, pardon,
Lucy.
Le prénom Lucy.
Ouais. Okay. Avec un Y, mais oui. Ouais.
Et donc ça, c'est aussi avec Marc-Antoine Doyon?
Alors, en fait, moi, je suis pas dessus. Je suis juste consultant dessus. Marc-Antoine est chargé de projet. Et le deuxième, c'est Gabriel Durnerin qui le fait, qui lui est scénariste dessus.
D'accord. Du coup, il y aura quand même ton nom sur la boîte.
Ah oui, ça reste mon auteur. Jeu, bien sûr.
Okay, d'accord.
Ça reste mon jeu, mon projet. Et, voilà. Okay. Le troisième, si je le fais, si c'est la version adulte, c'est moi qui le fais.
Toi, tout seul, peut-être?
Bah, pour le moment, je suis tout seul.
Ouais. Après, peut-être accompagné plus tard, quand on verra.
Bah, Marc-Antoine sera sûrement chargé de projet dessus. Mmh. Donc, ouais.
Ok, très bien.
Je propose de passer maintenant à tes activités au passe-temps.
Ouais.
Beaucoup de nos auditrices et auditeurs te connaissent sous cette casquette aussi.
Ouais.
Quelles sont tes activités précisément au sein de cette boutique qui se trouve à Toulouse?
Alors, actuellement, j'ai changé de poste. J'ai fait quasiment 11 ans en étant vendeur, polyvalent, puis vidéaste, puis plein de casquettes, tout en restant vendeur. Là, depuis avril dernier, je suis quasiment à temps plein dans la production de vidéos.
D'accord.
Donc, je suis chargé de production, donc je m'occupe des tournages, de planifier les tournages, de contacter les éditeurs, de trouver des lieux, des figurants, des costumes s'il y a besoin, de d'écrire le tournage, de réaliser, de cadrer, monter.
Ah, t'es vidéaste à temps plein, réalisateur, vidéaste
chef d'orchestre,
chef d'orchestre si on veut, mais ouais, en gros même sur mon contrat, je pense qu'il est écrit vendeur, quoi. Mais en vrai, voilà, je travaille pour le passe-temps, pour la chaîne YouTube principalement.
Alors du coup, si on fait un petit retour en arrière, un petit flashback, comment t'étais devenu vendeur?
Je suis toujours passionné de jeux, j'ai toujours aimé ça. Le monde du jeu, quand je suis recommencé, pas du tout celui qu'il est maintenant, mais vraiment pas du tout. Ça a explosé, c'est exponentiel, quoi. À l'époque, moi, je suis arrivé, il y avait Bruno, l'ancien gérant de la boutique, et Simon, et c'est tout. Voilà.
Donc, ils étaient que deux,
voilà. Et il cherchait quelqu'un pour faire un troisième, et je suis passé devant, il y avait une annonce, j'ai posé un CV, j'ai été pris, quoi. Voilà, c'était, je pense que maintenant, ce serait pas la même chose.
Toi, tu avais fait un truc commercial ou?
Non, j'ai un bac. J'ai le bac et j'ai fait des études qui ont rien donné, mais, en gros, en diplôme, j'ai un bac. Et voilà, et maintenant, la boutique, c'est plus du tout ce que c'est, quoi. On est 11 maintenant.
Ouais.
Et pour un vendeur, c'est, quelles sont les évolutions au quotidien dans leur action auprès des clientes et des clients du magasin?
En fait, je pense que l'évolution du métier s'est fait avec l'évolution du marché, du secteur et de la boutique, avec ce qu'on a voulu mettre en place, ce qu'on a mis en place, ce qui a nécessité comme besoin ensuite, quoi. La chaîne YouTube, c'est un jour Bruno, sans nous demander notre avis, arrive avec un petit appareil photo pas ouf. Et nous dit, on va faire des vidéos. On nous dit, mais attends, t'es gentil, on n'a pas que ça à faire. Personne ne le faisait. Il y avait Trick Track qui le faisait, c'est tout.
Ouais.
Et on nous dit, mais on n'a pas que ça à faire quand même. On a quand même beaucoup de taf. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne du temps pour faire ça? À quoi ça va servir? Vraiment. Bon, on a un micro pas ouf du tout. Enfin,
ouais.
Et la première vidéo, c'est Simon qui fait le tour du magasin à Noël en 2017, je crois, du coup, maintenant.
2017 avant, alors, du coup, non?
Je crois que c'est 2017.
Ah oui, bah non,
ou 2016,
non,
mais je crois que c'est 2017. Ouais. Je crois que ça doit faire 6 ans que la chaîne existe. Mm-hmm. Donc ouais, et cette vidéo cartonne. Maintenant, elle doit être à, je sais plus, à 400 000 vues, en tout cas, c'est n'importe quoi.
Ah, d'accord.
Alors qu'elle est dégueulasse.
Ouais, ce que j'allais dire, vous l'avez pas enlevé, du coup, parce que je me suis dit, peut-être,
c'est l'histoire, c'est l'histoire.
Ouais, c'est vrai, en plus, ouais, t'as raison.
Et elle a marché, puis on a commencé à faire d'autres, puis on a fait les sélections qui ont commencé à faire quelques abonnés, puis de plus en plus, puis de plus en plus. Et voilà, donc maintenant, on est là aujourd'hui avec 84 000 abonnés, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et voilà.
Et deux chaînes, en fait, en vrai. Il y a quand même deux chaînes.
Ouais, clairement, ouais. Ah. Ouais.
84 000, c'est la principale?
C'est la principale, ouais. L'autre est à 25, je crois.
Ah, il me semble, je crois que c'était plus, mais peut-être. Donc, tu dois le savoir mieux que moi.
Ou 28. Je sais plus exactement, mais la deuxième est beaucoup plus, on va dire, qualifiée. En termes d'audience, quoi. C'est vraiment une audience où là où on va mettre les dispo, là où il y a c'est des, elle est pas faite pour durer dans le temps. C'est-à-dire que c'est que des formats qui traitent de l'actualité très actuelle, quoi.
À chaud.
À chaud, voilà.
D'accord, ok. C'est comme ça que vous séparez un peu les trucs. Et puis, des formats peut-être un peu plus carrés, enfin, je sais pas comment dire, sur la chaîne principale.
Ouais, mais c'est un peu
plus formaté,
aussi,
quoi.
Non. Bah, pas forcément. C'est un peu, en gros, c'est ce qu'on pense qui peut durer dans le temps et qui va d'accord, intéresser ouais, des gens, même 6 mois après. Bah, on va le mettre sur la principale. Et le reste, ça va sur la secondaire, quoi.
Et puis, vous avez un studio maintenant?
Ouais, complètement, ouais. On a un studio qui est pas aussi bien qu'on voudrait parce que, c'est une cave, ça prend l'eau, c'est humide, c'est bas de plafond, voilà, bref. Il n'y a pas beaucoup de lumière.
C'est un local à vous, c'est un truc que vous louez?
Ouais. Enfin, c'est un truc en loue qui nous sert d'espace de préparation de commandes et de studio sous-sol. Et c'est pas optimal, mais c'est quand même sacrément mieux que rien parce que avant c'était on tournait au magasin, donc après les horaires d'ouverture, donc à la fermeture, on tournait de 19h30 à 2h du matin. Non, c'était pas possible ces horaires. Quoi. Enfin,
c'est des horaires de nuit, quoi.
Ouais,
t'avais l'entraînement pour le off, c'est étonnant qu'il soit pas.
C'est ça.
Justement, il se repose à Cannes, du coup.
Là, on a un studio avec les lumières en place, les caméras, c'est facile à installer, on n'a pas besoin de tout déménager à chaque fois. Enfin, donc, c'est du luxe.
Ouais, d'accord. Et comment vous gérez ça, en fait? Parce que du coup, il y a beaucoup de vendeurs qui interviennent dans la vidéo. Du coup, c'est vraiment, vous avez des contrats. Alors, tu disais que sur ton contrat, c'était vouloir marquer peut-être vendeur, mais je veux dire, enfin, en tout cas, tout ce que vous faites sur les aspects vidéo, c'est, ça rentre dans vos horaires de travail, quoi.
Ouais, ça l'était pas trop au début, puis de moins en plus, de plus en plus, puis maintenant, oui, clairement. En fait, le mercredi, on tourne les mercredis.
Tous les mercredis.
Une, deux, voire trois vidéos, mais, trois, c'est même rare, mais, une ou deux. Et, le principe, c'est que, on est 11, et le mercredi, c'est le seul jour où tout le monde est là. Toute l'équipe est là, du coup je peux piocher entre guillemets un peu comme je veux dans les différentes équipes
pour faire
c'est toi qui fais le casting en général des émissions.
C'est comme dans Mission Impossible, tu sais, au début Monsieur Fels il tourne les pages de son classeur et il choisit les agents à envoyer sur le terrain.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais après moi je choisis en fonction de qui veut en parler. Bah, genre on en parle, c'est pas toi, je
n'impose
pas, mais c'est qui est motivé pour parler de ça, qui veut faire ça, et puis voilà.
Et toutes les idées, parce que vous développez régulièrement des nouveaux formats ou des trucs one shot, tout ça, c'est plutôt toi?
Moi et Simon.
Et Simon,
les idées, c'est quand même Simon. Moi, je les mets en place. et j'en discute et des fois j'ai des idées aussi mais ouais. C'est surtout Simon
ouais. Surtout Simon ouais, pour ouais, les idées ouais, ouais, et après toi plutôt pour la réal du coup
ouais voilà
ouais, la mise en œuvre ouais, ouais.
Et quels sont les formats qui fonctionnent le mieux?
C'est difficile à dire. Ceux qu'on a gardés fonctionnent. Ceux qu'on a gardés fonctionnent. Ceux qu'on a moins gardés fonctionnaient moins. Ou on les a remaniés en fait. Comme le format des meilleurs jeux, ça marchait plus du tout parce qu'il y avait les CDispo qui, il y avait d'autres émissions qui parlaient exactement de la même chose, donc ça faisait redondant. Ça marchait plus du tout. On a changé un autre format. Ben on va voir. A priori, ça plaît. Donc.
J'ai une question. Tu parles des meilleurs jeux.
Ouais.
J'ai une question pointue et typique peut-être. Ouais. Pourquoi c'est toi qui présente Flashback Zombie Kids dans une des vidéos les meilleurs jeux?
Pourquoi
vous avez cru que ce soit toi?
En fait, c'était pas moi dans le C'est la vie dessus, parce que justement je voulais pas y être.
Ouais.
Et dans les meilleurs jeux, bon, je sais pas, je me sentais de le faire. Tout simplement.
C'est toi qui as choisi.
Tu t'es auto-choisi. Ouais.
Non, c'est moi.
Hein,
c'est
ouais, d'accord.
Moi,
okay. Ouais.
Okay. Bon, j'avais envie d'en parler. Hein.
Ok, d'accord. Non, parce que je trouve. Notre regard, en tout cas, certains de l'équipe, hein, je dis pas que forcément c'est celui de tous, mais c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre de dire, ok, ça, nous, on dit que c'est les meilleurs jeux, et c'est toi qui le présentes en tant qu'auteur, tu vois.
Oui.
Ça, ça fait un peu,
jugé
parti, quoi.
Sûrement, ouais. Mais c'est pour ça que dans toutes les autres vidéos où on en a parlé, j'y étais pas, quoi.
Ouais.
Il y en a eu beaucoup, donc.
D'accord, ok.
On a le sentiment aussi que la chaîne du passe-temps, parfois, met en avant certains jeux. Qui ensuite ont une histoire extraordinaire. Je pense à Skijo, par exemple.
Ah oui, c'est sûr. Après, Skijo aurait eu une histoire extraordinaire sans la chaîne du passant. C'est sûr. Mmh. Enfin, c'était déjà top 1 des ventes sur Amazon. C'était déjà énorme.
D'accord.
C'était déjà, voilà. C'est très difficile à voir l'impact qu'on a. En fait, on le voit, en fait, sur les remontées éditeurs qui te disent, le lundi, en sortant de la vidéo, il y a plein de commandes. OK, bon. Donc là, c'est pertinent. Effectivement, on sait qu'on a un impact. Le mesurer, c'est difficile. On le voit plus sur des trucs comme où il y a que Simon qui y croit, comme Oulaou par exemple.
Ouais.
Là, on voit l'impact de la chaîne et sur le jeu qui se vend vachement suite à ça, quoi. Tu vois, l'impact sur Alice is Missing, sur Acropolis où on a cartonné dessus, est-ce qu'il aurait pas eu sans nous? Je sais pas. Mais peut-être moins vite ou moins, ou à moindre échelle, quoi. C'est possible.
Ouais, vous avez quand même conscience que vous avez un impact, quoi.
Oui, bien sûr.
Effectivement, c'est pas mesurable. Je vois pas comment on pourrait mesurer ça.
Non, puis après, ça fait très prétentieux de se dire, c'est grâce à nous que le jeu fonctionne. C'est pas vrai, quoi. Enfin.
Non, il y a beaucoup de facteurs. Et puis, il y a le jeu lui-même, déjà.
Clairement.
Mais bon, il faut des caisses de résonance. Et, je pense, effectivement, les éditeurs, il me semble qu'ils ont quand même bien conscience que vous en êtes une, quoi.
En tout cas, on est un média influent, c'est évident. C'est sûr.
Ouais. Comment vous arrivez à concilier vraiment, j'entends que vous faites des tournages tous les mercredis, mais comment t'arrives à concilier, le métier de vendeur finalement et d'influenceur? Comment vous arrivez à avoir cette double casquette sans, tu vois, il y a aussi ce côté, c'est des jeux que vous vendez, donc, est-ce que c'est, vous allez pousser des jeux que vous avez beaucoup achetés?
C'est clairement ça, on peut penser ça, mais non, on pousse les jeux qu'on aime et en général on achète des jeux qu'on aime.
Ouais.
Des fois on se plante.
Et au final mais, ce que tu me dis c'est que ça va ensemble, quoi, quelque part.
Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on fait en vidéo, c'est ce qu'on fait en boutique avec les clients. Donc on conseille les mêmes jeux en boutique qu'on va en vidéo, quoi. Et pas du tout, c'est pas, en tout cas pour ceux qui peuvent le penser, c'est pas du tout les éditeurs qui nous payent pour parler d'un jeu, c'est moi qui vais chercher les éditeurs pour qu'ils financent un jeu dont on a envie de parler. Et c'est très différent et on y tient beaucoup à ça, à cette objectivité, à garder cette objectivité. Et jamais on nous achètera un avis en disant voici tant d'argent, dites-en du bien. Non, ça marche pas, ça se sent, ça se voit, puis c'est pas du tout notre ligne directive, quoi. Enfin, moi je démissionne si on fait ça. On veut pas faire ça.
Okay. Et comment vous trouvez un équilibre financier du coup là-dessus? Parce que donc, ok, je comprends, tu vas chercher les éditeurs, ou leur proposer contre rémunération du coup de faire un format X, Y, il y a différents formats, on va pas forcément revenir dessus. Mais tu trouves un équilibre financier là-dedans?
Alors, je suis pas dans la compta, donc en vrai, je sais pas. Mais sinon, on aurait arrêté, je pense. Donc, en fait, il y a aussi le fait qu'il y a des retombées des ventes, surtout. En fait, on le sent chez nous. En fait, les retombées de ventes, c'est tout le monde, nous y compris, mais tout le monde.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce qu'après, les gens, ils n'achètent pas forcément au passe-temps.
Non, mais c'est pas grave. Enfin, moi, je trouve ça très bien de pouvoir servir un peu tout le monde aussi, de pouvoir conseiller et que. Si t'achètes dans ta petite boutique du coin local, c'est hyper cool. Fais vivre ton commerçant, quoi. évite d'acheter sur Amazon, c'est tout ce qu'on dit, quoi. C'est, voilà.
Mais du coup, ouais, tu sais pas si c'est plutôt une opération nulle ou si c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, en fait.
En vrai, je suis pas du tout dans les chiffres, donc je sais pas. Je suppose que si on gagnait, enfin, si c'était pas rentable, on aurait arrêté, quoi.
Oui, ouais, c'est beaucoup d'énergie dépensée, oui.
Ouais, bien sûr.
Du coup, t'es pas au courant que ta lettre de démission t'attend en rentrant. Ah, je plaisante. Mais... j'ai noté aussi que dans les vidéos, j'ai l'impression en tout cas que c'est toi qui es un peu le game designer quand il y a des jeux.
Ouais,
c'est vrai. Des jeux adaptés, en surdimensionnés, en revue corrigée. Je me trompe, c'est toi effectivement?
Non, parce que ça fait partie de mon boulot. Ouais. Les Olympiades qu'on a fait, c'est quasiment moi qui ai tout fait. C'était un boulot titanesque, mais c'est hyper cool. En fait, c'est hyper gratifiant. Ouais. Moi, j'adore ça. C'est la création, c'est ce qui me plaît. Et c'est ce que j'en trouvais peut-être un peu moins dans mon métier de vendeur, à juste conseiller des gens. Enfin, juste, on faisait mille trucs, mais je me sens beaucoup plus à ma place là, dans la création, dans la possibilité de, d'écrire, de créer, de montrer aux gens autre chose, une histoire, quelque chose. Et voilà, donc je suis très bien dans ce poste-là.
Au final, ta semaine, ça doit être hyper varié, en fait, ce que tu fais, du coup. Parce que entre préparer des émissions, des formats qui existent déjà, préparer le casting, préparer effectivement pour peut-être plus tard des formats avec un peu de game design, ta casquette d'auteur à côté. T'es quand même à 100% d'ailleurs au passe-temps.
Oui.
Ouais, t'as un 100% pour passe-temps encore.
Bien sûr. Ouais, bien sûr. Okay. Mais c'est super cool. Enfin, c'est ça qui est cool, c'est que le métier est hyper varié et puis en fait il varie de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Il évolue tout le temps. Et j'ai pas du tout l'impression de faire le même métier qu'il y a 10 ans alors que je suis dans la même boîte, quoi.
Ouais, bah oui, forcément.
Que j'ai le même contrat, tu vois. Mais je fais pas la même chose. Enfin, c'est rien à voir, quoi.
Et ça va, y a pas une partie qui t'embête un peu? Genre j'ai n'importe quoi, le démarchage ou...
J'aime pas refuser des trucs, tu vois. Quand on me dit, parle-moi de mon jeu, je dis, non, ça marche pas comme ça. Et non, on n'y croit pas, désolé. Ça, c'est pas la partie la plus plaisante, mais en vrai, ça va, quoi.
Il y a quand même une cohérence dans toutes ces activités, c'est l'envie de raconter des histoires.
Ouais, clairement. Mmh.
Et on retrouve la vidéo encore et tout ça.
Et de faire vivre des choses, quoi. Ouais, et de faire vivre des choses. Et donc pendant le confinement, donc on a fait quand même pas mal de vidéos, on a réussi à produire quand même pas mal de choses, chacun chez soi et de diverses manières. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a plein de gens, et vraiment plein de gens qui sont entrés dans le monde du jeu de société pendant le confinement, via nos vidéos et via d'autres médias, mais qui se sont dit, il y a rien à la télé, on est toute la famille ensemble, qu'est-ce qu'on s'emmerde, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dû chercher quoi faire pendant le confinement sur Internet. Et je pense que rapidement, ils se sont dit, faites des jeux de société. Mmh. Et du coup, ça a vraiment fait rentrer énormément de gens dans le jeu de société grâce à ça. Et moi, j'ai eu des témoignages de personnel, de gens qui se sont dit, on passait nos soirées à regarder la télé, il se passait plus rien, il n'y avait aucune émotion. Maintenant, on joue quasiment tous les soirs, on a retrouvé une vie de famille. Et ça, c'est plus que gratifiant.
C'est mieux que l'as d'or.
Ah ouais. Bien sûr. Mmh. Ah oui, bien sûr. C'est hyper gratifiant de se dire que on a servi à quelque chose, quoi. Enfin, on a rendu heureux des gens, tu vois. Enfin, on a fait vivre quelque chose à des gens et on a changé un peu leur quotidien, quoi. Et même s'il y en a 10 comme ça, et je sais qu'il y en a plus, mais moi j'ai tout gagné, quoi. Enfin, et c'est pareil avec Flashback, quoi. Si j'ai fait vivre des choses à des gens, j'ai tout gagné. Okay. Ouais. Ah, d'or ou pas, en vrai.
Et en perspective pour toi, donc on a compris du coup pas mal de projets potentiellement dans le jeu de société. Le passe-temps, tu comptes continuer comme ça? Est-ce que tu envisages de peut-être que l'un prenne plus d'importance que l'autre, basculer plus sur une. Je te demandais si t'étais à 100% au passe-temps.
Ouais.
Tu comptes le rester pour
l'instant. Par rapport à être auteur
ou d'autres choses éventuellement.
Auteur, je vois comme un loisir. Enfin, c'est trop compliqué de vivre d'être auteur. Non. Il faut tout le temps faire. Non, pas pour moi.
Ouais, d'accord. Non, okay.
C'est vraiment pas pour moi.
C'est vraiment sur ton temps libre et puis surtout la flamme et l'idée.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est un travail passion. Et j'ai peur que si ça devient un travail nécessaire, ça devienne plus une passion, mais une nécessité et une contrainte. Et du coup, je suis pas sûr que j'arrive à produire des choses belles comme ça. Enfin, moi, personnellement, je suis sous la contrainte. Je pense que je ne serai pas aussi... là, je prends le temps. Tu vois, Shaman, ça a 3 ans. Ça sera encore pendant encore quelques années, je pense. On vise en 2024, mais ça fait 3 ans qu'on vise l'année suivante. Donc, j'ai plus d'attente là-dessus, quoi, mais voilà, je permets de me prendre mon temps, quoi.
Très bien.
Bah, merci beaucoup, Baptiste. Bah, on a été ravis de t'accueillir à nos micros. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Utip. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.